Nous allons nous rendre à présent à Kirkenes. C'est une ville norvégienne située à la frontière avec la Russie dans le Grand Nord. Et nous allons nous y rendre parce que là-bas, le quotidien des habitants a été chamboulé par la guerre en Ukraine. Il y a déjà 2 ans qu'elle a débuté. Dans cette petite ville de 3500 habitants, on assiste en fait à une sorte de retour du rideau de fer après 30 ans de cohabitation avec les Russes. La coopération transfrontalière était synonyme d'espoir et de prospérité dans la région, mais depuis un peu plus de 2 ans maintenant, depuis février 2022, tout s'est arrêté, ou presque. Kirkenes, le cœur brisé de l'amitié russo-norvégienne, c'est un reportage de Carlota Morteo diffusé une première fois le 27 janvier dernier.
Now we shall cross the Pasig River.
Niché entre un lac gelé et les collines enneigées, le poste frontière norvégien de Storskog baigne dans cette lumière bleue caractéristique des matins d'hiver dans l'Arctique.
On a le droit de venir jusqu'à cette grille. Au-delà, il faut avoir les papiers pour se rendre en Russie. La frontière est de l'autre côté de ce bâtiment en jaune. Il y a 200 mètres de sas environ, puis c'est le poste de contrôle russe.
Depuis la guerre en Ukraine, Rolf Randa, garde frontière à la retraite, n'a pas eu le goût de renouveler son laissez-passer local, spécialement créé pour favoriser les échanges transfrontaliers.
Ces dernières années, quand la frontière était pratiquement ouverte, beaucoup de gens d'ici traversaient pour faire leur plein d'essence ou réparer leur voiture. Les mécanos russes sont astucieux et moins chers.
La ville la plus proche de ce coin reculé de Norvège est Murmansk, capitale de l'Arctique russe, 300 000 habitants, à moins de 3 heures d'ici.
C'est allé très vite dans les années 90. Les voyages, mais aussi la coopération entre entreprises, les travaux sur les routes. On a construit un hôpital dentaire à Murmansk.
Volvo,
des stations pétrolières Equinor, des entrepôts Volvo. Des Norvégiens se sont mariés à des Russes. Certains ont la double nationalité ou de la famille des deux côtés de la frontière.
Amour, affaires, tourisme, échanges culturels et sportifs, la frontière était poreuse. Aujourd'hui, elle est toujours ouverte, de 8h à 15h seulement, avec de nombreuses restrictions. Et surtout, les visas Schengen sont de plus en plus difficiles à obtenir pour les Russes.
70% des voyageurs sont des citoyens russes.
Visage anguleux, Goran Stenset est le chef de police en charge de l'immigration et du contrôle de la frontière.
Il y a 10 ans, on avait 320 000 traversées sur l'année.
En 2015,
après l'annexion de la Crimée, c'est tombé à 246 000. Cette année, on comptabilise 66 000 passages.
Une voiture immatriculée en Norvège s'arrête. La conductrice tend ses papiers. Elle a la double nationalité et va rendre visite à sa famille en Russie.
C'est très triste. Les Norvégiens, les Russes, nous sommes amis depuis de nombreuses années. Tout est très soudain. On a lu dans un journal norvégien qu'en faisant leurs courses ici, les Russes sponsorisent la guerre. Expliquez-moi, c'est pour leur usage personnel. On est contre la guerre, comme tout le monde.
La police ne fait pas de politique. Mais dans la presse locale, les histoires de chaussettes et de chaussures achetées à Kirkenes pour les soldats russes sur le front ukrainien ont fait jaser. Dernièrement, c'est aussi l'arrivée de migrants sans papier chez le voisin finlandais qui a alimenté les conversations. Joran Stenset.
Of course, we are not so far from this closest BCP in Lapland area.
Nous ne sommes pas loin des postes frontières de la Finlande en Laponie qui ont fermé cet hiver à cause des migrants sans papiers. Nos homologues finlandais disent que les autorités russes aident ces personnes à passer ou du moins ferment les yeux. Donc bien sûr, on observe avec attention ce qui se passe là-bas.
En 2016,
plus de 5500 immigrés sans papiers étaient arrivés ici depuis la Russie. Mais je dois dire que nous avons une très bonne coopération avec les gardes frontières russes, le FSB. On a des rencontres à tous les niveaux. Cette frontière est plutôt calme.
Retour au chaud dans le 4x4 de Rolf Ronda.
En face, où tu vois les lumières rouges, c'est la Russie.
Ces 200 km de frontière, il les a patrouillés pendant 20 ans avant de troquer son bonnet de militaire pour celui de journaliste local. Il déplie une carte régionale, me tend des jumelles et scrute les berges de la rivière Pasbik.
Là, à côté de la digue, il y a une église orthodoxe.
And there's a church, you know, on this bank.
Voilà une petite enclave russe sur la rive norvégienne. L'archevêque de Mourmansk, connu pour ses sorties nationalistes, est venu ici il y a quelques mois rappeler que l'État russe garantissait la protection de ces terres sacrées, aussi loin et inhabitées soient-elles, avait-il précisé.
Cette frontière a été dessinée parce que Napoléon a perdu la guerre. Un accord a été trouvé avec la Russie et ils sont venus ici en 1826 pour marquer la frontière sur le terrain avec des poteaux. Puis, jusqu'en 1940, cette zone devant nous, c'était la Finlande. Parce qu'en 1917, après la révolution russe, la Finlande a pris son indépendance et obtenu cette bande de terre vers le nord, un accès à la mer en fait, ici même. Mais en 1939, pendant la guerre d'hiver, la Russie attaque la Finlande. La Norvège est envahie par les nazis en 1940, capitule, et 45 000 soldats allemands arrivent ici. Avec les Finlandais comme alliés, les nazis attaquent la Russie par ce corridor. Ils ont perdu, donc la Finlande a dû donner 10% de son territoire à la Russie dans cette zone-ci. Ils ont eu 400 000 réfugiés internes et nous, depuis 1944, on a de nouveau eu cette frontière avec la Russie.
Des piquets rouges plantés dans la glace matérialisent tous les 50 mètres cette frontière invisible sur cette rivière gelée d'un blanc immaculé. L'été, ce sont des bouées à ne surtout pas dépasser.
Quand on pêche les truites, les poissons vont où il y a le plus de courant, où c'est le plus profond, c'est-à-dire pile poil sur la frontière. C'est embêtant, faut faire attention.
Voilà, une tour de garde russe.
Je pense que les Russes n'ont plus personne dans ces tours de garde. Avant, on les voyait souvent, mais leurs barrières sont tellement solides avec tout un système d'alarme, des barbelés très serrés. Quand ça sonne, les gardes frontières accourent pour voir ce qu'ils traversent. Le plus souvent, c'est un élan ou un renne.
Derrière ce rideau de fer, un no man's land de 40 km, puis encore un grillage. La Russie est barricadée. Aucune chance ici donc d'apercevoir un civil russe en train de patiner. De toute façon, il est strictement interdit de communiquer.
Même si ils essaient de prendre contact avec vous, vous n'êtes pas permis de répondre.
Même pas un petit salut de la main, rien.
Oh non.
On a l'habitude de dire dans les bataillons de gardes-frontières norvégiens qu'on a un point commun avec nos homologues russes. On regarde tous à l'est. C'est leur principale mission, que les Russes ne s'enfuient pas en Norvège. Ce n'est pas de nous qu'ils ont peur.
Il est 13h, la nuit tombe, la température affiche moins 15 degrés. À Kirkenes, bourgade frontalière bordée par deux fjords et une ancienne mine de fer, les commerces tournent au ralenti.
Il n'y a presque plus de Russes ici. Avant, ils venaient de Murmansk, de Nikel, mais depuis octobre, ils n'ont plus le droit de venir en voiture, seulement en minibus. Forcément, ça a affecté l'économie locale. Tous les magasins avaient des clients russes.
Couches pour bébés, vêtements, matériel électronique, les ventes se sont écroulé et les vendeurs sont partagés.
Les Russes ont peur que la frontière ferme complètement, même au bus, c'est ce qu'ils me disent. Donc dernièrement, ils achètent plus de choses. Moi, je ne sais pas, il faut arrêter les guerres, mais en même temps, perdre le contact avec la Russie, c'est pas bon.
Poutine, ça l'arrange que les frontières avec l'Europe ferment. Comme ça, au prochain appel à la mobilisation, les Russes ne pourront pas sortir. Et en plus, il peut dire, regardez la Finlande, la Norvège, ce sont eux qui ferment les portes, pas nous.
Sur les 3500 habitants de Kirkenes, on compte 400 citoyens russes résidents dans la région. 10% de la population a des liens familiaux avec la Russie. Sur la patinoire, les jeunes font des pirouettes impressionnantes.
On a des amis, des voisins, des partenaires, des enfants russes. En tout cas, ma génération, on a grandi avec des Russes. Ils font partie de la communauté.
Ailo, 28 ans, prof de sport, est un enfant du pays.
Notre expérience et notre mémoire partagée avec la Russie n'est pas la même qu'à Oslo. Dans la capitale, ils sont plus distants, plus froids, parce qu'ils n'ont pas noué ces relations humaines. Ça n'empêche qu'on est tous d'accord pour condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Des centaines d'Ukrainiens, mais aussi des Russes dissidents qui ne veulent pas rejoindre le front, se sont installés à Kirkenes depuis le début de la guerre. On croise notamment des artistes russes à l'espace culturel Terminal B, animé par le collectif Pikene, qui sponsorise leur visa. Lena Lerner, 34 ans, originaire de Saint-Pétersbourg, est en résidence ici pour quelques mois.
People are very open. Here to their neighbors.
Les gens ici sont très ouverts à leurs voisins. C'est appréciable parce que c'est difficile en ce moment de soutenir des Russes, de leur faire confiance. Il y a des musées qui ne travaillent plus avec moi parce que j'ai un passeport russe et ils ne veulent pas subir de pression. Ici, ils n'ont pas peur de soutenir les gens dont ils partagent le point de vue. La Russie s'oriente vers un régime totalitaire qui va durer au moins 10 ans. Je me sens impuissante. Je ne peux pas le changer et je ne veux pas le soutenir. Donc, je quitterai la Russie bientôt.
Sur le bureau de Thomas Nielsen trône une maquette de sous-marin nucléaire d'attaque. À l'intérieur, 6 petits verres et une bouteille vide. C'est l'un des nombreux souvenirs de reportage du rédacteur en chef du site d'information The Independent Barents Observer, qui publie en anglais et en russe.
Quand on a lancé le Barents Observer il y a 20 ans, il y avait un gros manque de connaissances sur ce qu'il se passait de part et d'autre de la frontière. Et c'était avant Google Translate. Il y avait une énorme barrière linguistique.
Avant d'être interdit de séjour en Russie en 2016, il avait l'habitude de se rendre très régulièrement dans l'oblast voisin, à Murmansk et Severomorsk, où est abritée la base de la puissante flotte du Nord, le cœur de la dissuasion nucléaire russe, à seulement 250 km de Kirkenes.
La Russie à côté de laquelle nous sommes aujourd'hui est très différente il y a encore quelques années. Bien sûr, la guerre de la Russie contre l'Ukraine est terrible. Mais la Russie elle-même est une espèce de film d'horreur au ralenti. La liberté d'expression et de la presse ont disparu. La société civile est mise en prison. Les politiciens sont empoisonnés. C'est très triste pour nous de le constater, car nous avons grandi après la guerre froide, quand on pensait que la Russie, la Norvège et les autres pays nordiques se rapprocheraient de plus en plus, de manière démocratique, avec l'économie de marché, le développement culturel, les amitiés. On est passé de l'espoir et la prospérité à la peur et l'obscurité.
The Independent Barents Observer couvre la région arctique sur son site, sur Telegram, sur YouTube, crée des podcasts pour une audience russe. Objectif, contourner la censure, le mur informationnel.
On sait qu'on est lu à l'intérieur de la Russie. Cet automne, on a reçu une lettre du procureur général de Russie qui nous rappelait que nous sommes bannis dans le pays. Il ne nous aurait pas envoyé ce message s'il ne savait pas qu'on a une audience en Russie. Et on voit que les médias régionaux russes nous citent aussi.
Depuis la guerre en Ukraine, de nombreux journalistes russes ont quitté le pays. 4 ont été embauchés ici pour un contrat de 3 ans, parmi eux, Denis Dagol.
Not real exile. Because no one in Russia say you must go from our country.
Ce n'est pas un vrai exil, puisque personne en Russie ne m'a dit tu dois partir. Mais j'ai un peu peur d'y retourner. Avec ce que j'ai écrit, je risque la prison pendant 8 ans. Et les gens s'en fichent de tout ça. La guerre, c'est loin. Pour les Russes, c'est comme regarder une série télé.
Новости Баренц-Обзор. Ситуация катастрофическая. В северных регионах России некому работать.
Ils nous ont ouvert beaucoup de portes qu'on n'arrivait pas à pénétrer.
Atle Stalesen est journaliste et fondateur du Barents Observer.
La Russie investit beaucoup en Arctique, sur des projets industriels, dans le transport, le pétrole, le gaz, le charbon même. C'est une région qui change de manière drastique et très rapide à cause du réchauffement climatique. Il y a la fonte du permafrost, une immense partie de l'Arctique est russe et revêt une importance militaire et géopolitique centrale pour elle. C'est encore une région tranquille, mais elle subit de plus en plus de pression.
Jamais la Norvège n'avait autant coupé les ponts avec la Russie. Les projets de recherche scientifique sont interrompus. Oslo a même cessé de financer la commission bilatérale sur la sûreté nucléaire, un projet ambitieux de la coopération qui avait résisté à toutes les dissensions politiques jusqu'à maintenant et permis de nettoyer des tonnes de déchets radioactifs soviétiques. Il en reste encore, mais sans aide internationale, les chantiers sont à l'arrêt.
Nous sommes le centre géopolitique de la Norvège, les vrais défis sont ici et tout a changé.
L'ancien maire de Kirkenes, Rune Rafaelsson, nous a donné rendez-vous au pied de la statue du soldat soviétique, debout, fusil en main, regard au loin. Érigée en hommage à l'armée rouge qui a libéré la ville du joug des nazis en 1949, c'est ici qu'a eu lieu une polémique, le 25 octobre dernier, jour de commémoration de la libération.
Le maire a mis des fleurs ici. With the Ukrainian flag.
Le maire actuel est venu poser des fleurs entourées du drapeau ukrainien. Puis le consul général de Russie est arrivé avec une couronne ornée d'un ruban aux couleurs de la Russie et il l'a posée par-dessus. Du coup, ça cachait les fleurs pour l'Ukraine, ça a créé de l'agitation. Les gens se sont énervés. Certes, le consul s'est mal comporté, mais il ne faut pas être aussi idiot que lui. On peut parler de l'histoire soviétique, du fascisme, de Poutine, etc. Mais ce genre d'événement, ça divise les gens. Utiliser ce monument pour faire de la provocation, ce n'est pas une bonne politique.
Rune Rafaelsson était une cheville ouvrière de la coopération transfrontalière depuis la chute du mur. Il se tourne vers le port de pêche, en contrebas, et nous montre 2 bateaux russes qui sont amarrés derrière une immense pile de casiers à crabes.
The Barents Sea, it's a kitchen of Europe.
La mer de Barents, c'est le frigo à poissons de l'Europe. Ce sont des quantités énormes de morue notamment. Il faut en prendre soin. La Norvège et la Russie, même du temps de l'URSS, ont réussi à gérer les stocks. C'est très important. C'est pour ça que malgré les sanctions, les chalutiers russes peuvent encore décharger et faire la rotation de leurs équipages à Kirkenes, à Bøtfjord et Tromsø. Ce n'est peut-être pas très élégant, mais ce n'est pas pire que les pays européens qui continuent à acheter du gaz à la Russie.
La gestion commune des ressources halieutiques de la mer de Barents est le dernier vestige de la coopération avec la Russie, le plus important sans doute. Au large, entre les icebergs et la banquise, la Russie et l'OTAN projettent régulièrement leur puissance dans de grands exercices militaires. Pour échapper au vent glacial, quoi de mieux qu'un café et un biscuit aux épices?
Cette peur que nous avons que la Russie puisse utiliser des armes nucléaires contre des pays occidentaux, cette peur vient littéralement de l'Arctique à un jet de pierre de la frontière norvégienne.
Andreas Ostagen, chercheur en relations internationales au Fridtjof Nansen Institute, spécialiste du Grand Nord.
À cause des relations tendues entre la Russie et l'OTAN, les capacités nucléaires stratégiques de dissuasion russe qui se trouvent sur la péninsule de Kola sont devenues capitales pour la Russie. La crainte, c'est par exemple qu'il se passe quelque chose à la frontière avec la Pologne ou dans un pays balte. Un incident qui ne mène pas à un conflit frontal, mais qui provoque ou qui pousse Moscou à faire un signalement nucléaire depuis la péninsule de Kola. Et s'il y a une incompréhension dans le message ou un mauvais calcul, on peut se retrouver dans une spirale nucléaire qui se déroule juste ici, dans le Grand Nord. C'est improbable, il y a des mécanismes pour l'éviter, mais c'est la principale crainte du point de vue des politiques norvégiens.
But that is the big fear from a Norwegian decision maker's point of view.
Si la Norvège craint le dérapage, elle soupçonne aussi Moscou de mener des opérations hybrides, des coupures de câbles sous-marins, des provocations, de l'espionnage. Une ambiance qui rappelle la guerre froide aux habitants de Kirkenes, ce laboratoire de la coopération Est-Ouest, où la méfiance vis-à-vis du grand voisin est de retour, avec un brin de tristesse.
Trouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.